Je vais commencer par une petite histoire. Un jour, un fermier alla voir le Bouddha pour lui parler de ses problèmes. Il décrivit ses difficultés, combien son travail était compliqué, tant à cause de la sécheresse que de la mousson. Il parla au Bouddha de son épouse. Il l'aimait, mais il y avait certaines choses chez elle qu'il aurait bien voulu changer. Même refrain en ce qui concernait ses enfants. Oui, il les aimait, mais ils n'évoluaient pas comme il l'aurait souhaité. Quand il eut fini, il demanda comment le Bouddha pouvait l'aider à résoudre ses soucis. Le Bouddha répondit : « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. » « Comment est-ce possible ? » s'écria le fermier. « Vous êtes censé être un grand maître. »« Je vais vous expliquer, » répondit le Bouddha. « Tous les êtres humains ont 83 problèmes, c'est un fait. » Bien sûr, certains problèmes disparaissent de temps en temps, mais bien vite, d'autres les remplacent. Nous aurons donc toujours 83 problèmes. « À quoi sert donc votre enseignement ?» répliqua le fermier indigné. « Mon enseignement ne peut alléger les 83 problèmes, mais il est possible qu'il soulage le 84e, » répondit le Bouddha. « Et quel est-il ? » demanda le fermier. « Le 84e problème est que nous ne voulons pas avoir de problème. » C'est un joli résumé de notre vie. Donc, les enseignements du Bouddha nous apprennent que finalement, ce qui rend notre vie difficile, c'est de chercher à éviter les problèmes, de chercher à échapper à cette dure réalité de l'insatisfaction et de dukkha. Le message, c'est que le bonheur, il ne réside pas dans une vie sans problème et que la souffrance, elle a beaucoup à nous apprendre. Le Bouddha parle de laisser les difficultés faire leur œuvre de transformation. Ça veut dire les laisser nous ouvrir à la compassion, à la tendresse du cœur, au courage, à la patience. Généralement, dans l'expérience, quand il y a quelque chose de désagréable qui se manifeste ou qui arrive, la réaction instantanée, ça va être de nous fermer et puis de nous couper du ressenti. On va tout de suite prendre refuge dans les pensées et puis voilà, on va chercher à solutionner le problème. Le souci, c'est que la solution qu'on cherche, elle provient d'un très gros malentendu. On imagine que tout peut être prévisible et sûr. On imagine qu'on peut tenir le bonheur une fois pour toutes. Et on oublie que la vie, elle ne peut pas seulement être bonne. C'est un jeu de joie et de peine. Et l'expérience nous montre constamment que les choses changent à leur façon et malgré nous. Dans la pratique de la méditation, l'attention, elle va nous enseigner cet art de tout laisser tel que c'est. L'art de laisser aller les choses, de rester présent, de voir les opinions, les interprétations comme juste des opinions. Des interprétations, rien de plus. Cette pratique de l'attention, ça va être un moyen pour plus donner tellement de vérité ou de réalité à nos réactions, ce qui s'élève à l'intérieur de nous. Ça va être un moyen pour pas intensifier les émotions et souffrir encore plus. Il y a en nous cette force toujours disponible qui nous permet de faire de l'espace pour tout et puis d'aller toucher le centre de notre douleur et puis de la laisser aller. Et à chaque fois que la conscience, elle peut recevoir l'expérience comme elle est, sans ajouter de commentaires, sans chercher à la changer, alors le processus de purification se met en route. Et quand on se trouve un peu mis à l'étroit, si on peut patiemment accueillir, recevoir l'expérience, pas la prendre de manière trop personnelle, attendre, voir qu'à un moment donné l'énergie change, alors là on gagne beaucoup en liberté intérieure à l'égard de nos émotions. C'est juste un travail en fait d'apprivoiser des sensations agréables, désagréables et neutres. Donc il n'y a rien à faire de spécial, juste être présent à ce qui est là et puis laisser les choses suivre leur cours au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau du mental. C'est Pascal Auclair qui dit que méditer, c'est continuer calmement à connaître les changements de l'expérience. Et puis on pourrait rajouter connaître avec cœur. Ça fait 4, 5 C. Connaître calmement les changements de l'expérience. Ah non, ça fait 4 C. Okay. Continuez calmement à connaître les changements de l'expérience. Avec cœur, il y en a bien 5. Donc l'attention, c'est un petit peu le point central dans l'exercice de la méditation. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de vivre notre vie avec un petit peu moins d'inquiétude, avec un petit peu moins d'avidité. Et puis plus de confiance. Et ce que le Bouddha il appelle l'éveil, c'est quelque part très proche de l'instant, de cette conscience qui est complètement ouverte à tout ce qui est, hein, d'un corps et d'un esprit qui est disponible à la vie. Et la pleine conscience, elle a réellement trait à la liberté. C'est surtout une pratique libératrice. C'est une manière d'être ou de nous lier d'amitié avec tout ce qu'est l'expérience humaine. Parce que tout est là. En fait, on n'a pour s'éveiller que l'ici et maintenant. Il n'y a pas de meilleur endroit et il n'y a pas de meilleur moment. Je vous lis Anthony de Melo. Ne changez pas, la volonté de changer est l'ennemi de l'amour. Ne changez pas, aimez-vous tel que vous êtes. Ne changez pas les autres, aimez-les tels qu'ils sont. Ne changez pas le monde, il est dans les mains de Dieu et il sait ce qu'il fait. Et si vous faites cela, le changement se produira merveilleusement à sa façon et à son heure. Lâchez prise et laissez-vous porter par le courant de la vie, désencombré de vos bagages. Le but ultime du chemin, c'est de développer cette inébranlable paix du cœur. C'est un cœur qui est plein de bienveillance, qui est complètement ouvert, et puis qui est prêt à tout. Et quand on peut garder un cœur ouvert, confiant, devenir conscient de ce qu'on expérimente sans qu'il y ait de réaction, que ce soit le désir ou l'aversion, alors on arrête de créer plus de souffrance pour nous-mêmes et puis aussi pour les autres. Et sentir l'expérience du désagréable, de l'agréable et du neutre, c'est autre chose en fait que chercher comment est-ce qu'on peut s'accommoder de l'expérience, hein, bricoler pour être un petit peu moins inquiet ou un peu plus tranquille. Dès que le jugement apparaît, il y a comme une crispation et puis une bataille qui s'engage. Et quand on s'attache à des idées, à une image qu'on peut avoir de soi-même, à des souvenirs, à l'état de victime, à la culpabilité, ben on entrave notre liberté. C'est l'identification en fait qui nous prive de notre liberté. Voilà qui je suis. C'est autre chose de dire voilà comment il m'arrive de me sentir. Voilà l'émotion du maintenant. Être triste, c'est vraiment autre chose que de réfléchir à la tristesse, d'essayer de la comprendre, de la justifier, de la relativiser, chercher un petit peu à la limiter ou à la contenir, quelque part à la gérer. On a cette habitude d'encadrer toujours l'expérience en se racontant plein d'histoires. Et c'est de cette façon qu'on cherche à maîtriser en fait les émotions. Mais cette dépendance qu'on a au concept, c'est ça qui nous piège en fait. Ça nous coupe l'accès à la vie, hein, ce flot du changement qui est continuel. Quand on est dans cette prison du moi qui s'attache, qui aime pas, qui veut pas, qui revendique son droit au plaisir, ben, y a beaucoup de souffrance. Mais quand on peut s'extirper de toutes ces fabrications à propos de moi, à propos de la vie ou à propos de l'autre, alors là, il y a une liberté qui est accessible. Et la tendresse du cœur, elle est rendue possible par le travail de l'attention et aussi par le silence. Si on veut se rendre libre de ce qui entrave notre bonheur, on doit vraiment apprendre à voir et puis nous affranchir un peu de cette partie de l'esprit qui est constamment occupée à émettre des tas de commentaires, des tas d'opinions, des considérations, des conclusions, des prévisions, une version des faits, des conclusions. Cette partie de l'esprit, elle exige, elle attend, elle a des demandes, des idées sur ce que les choses elles devraient être, sur ce que les choses elles sont, sur comment ça devrait évoluer. Et puis il y a une autre partie de l'esprit qui est plus d'en recevoir, communiquer réellement avec ce qui est. Et quand on a l'esprit qui est sincèrement ouvert, qui est silencieux, on peut sentir comme une curiosité ou une disponibilité intérieure. Il y a cet intérêt ou cette joie pour l'instant comme il est. Et puis le problème, c'est pas tellement d'avoir toutes ces pensées, d'émettre tout un tas d'opinions et de considérations sur les choses. Le problème, c'est plutôt de prendre ça très au sérieux et puis de trop y croire. Parce que quand même, la plupart du temps, c'est nos pensées qui nous rendent malheureux. Donc l'entraînement dans la méditation, c'est beaucoup d'apprendre à écouter sans les jugements, sans les commentaires, sans les interprétations. Et puis s'ils sont là, de savoir qu'ils sont là. Et quand je peux être en silence avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur, au lieu de chercher un objet auquel je vais accrocher, attacher mon esprit, ben, y a une porte qui s'ouvre sur un autre monde. C'est Pema Chödrön qui dit « Quand on est dans le pétrin ou quand on se sent mal à l'aise, dès qu'on est coincé et qu'on ne sait plus quoi faire, on peut trouver un endroit ou aller regarder le ciel et faire l'expérience d'un peu de fraîcheur. Sans espoir ni peur, sans parti pris ni idée préconçue, un lieu totalement ouvert. Cela est toujours accessible. L'espace imprègne tout à tout instant. » Et c'est là maintenant, hein, l'espace, le silence, le son du silence. que le Bouddha nous dit, c'est que le monde des expériences, c'est pas le seul monde dans lequel on peut vivre. Souvent, notre refuge, il est dans ce qui devrait être, ce qui aurait dû être, ce qui sera, un monde en fait qu'on construit avec la pensée, généralement en réaction à un événement qui est agréable, désagréable ou neutre. Alors, dans la pratique, on va donner une nouvelle habitude à l'esprit et le refuge, il va être plutôt dans ce qu'il connaît, hein, dans la conscience. Dans la présence aux choses comme elles sont, pas dans ce que je pense des choses, pas dans les choses non plus, mais dans ce qu'il connaît. Donc, dans l'exercice, on travaille le corps et on travaille l'esprit pour qu'il soit réceptif à l'expérience dans l'instant, sans ce voile des projections, des peurs, sans le voile de la confusion. Et cette préparation de l'esprit, elle est liée à deux aspects importants et principaux. D'un côté, il y a cette quête d'une stabilité de l'esprit, et puis d'un autre côté, il y a l'ouverture à l'expérience, quelle que soit sa couleur. C'est les deux outils principaux, concentration et pleine conscience. Et pour qu'on puisse vraiment ouvrir la conscience à ce qui est là, c'est vraiment indispensable d'avoir construit cet outil de la concentration. Il y a une histoire avec une bougie, la mèche, la cire, je ne sais plus qui est quoi, mais en fait, il faut les deux, sinon ça ne marche pas. Donc la concentration, elle va vraiment, elle fonctionne avec la pleine conscience, elle fonctionne ensemble. C'est deux outils de développement de l'esprit qui sont profondément et intimement liés. Parce que sans cette stabilité ou tranquillité de l'esprit, en fait, le miroir de la pleine conscience, il va renvoyer qu'une image un peu imprécise des choses. Et quand c'est trop imprécis, ben, on ne voit pas clairement quelles sont les causes de la souffrance. Donc, le travail de la concentration n'est pas à négliger. Et puis, il faut se souvenir que la concentration, elle est toujours au service de la libération. On ne veut pas juste être concentré pour être concentré. L'idée, c'est d'apprendre à mieux connaître le fonctionnement de notre esprit et puis voir où sont les causes de la souffrance pour pouvoir y remédier, on va dire, ou trouver une alternative, une autre manière d'être avec les difficultés qui fait que on va pas en rajouter une couche. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'investigation, ça veut dire l'intérêt pour l'expérience, pour le sens du moi quand il émerge, pour les émotions perturbatrices, et puis l'espace et le silence, le repos de l'esprit dans l'espace et le silence, ce qui est la concentration. Et il y a beaucoup de manières différentes de travailler la concentration. Et une des façons de faire, c'est ce que peut-être j'ai proposé le premier jour, c'était de simplement nommer les contacts. Il y a cette histoire de rester à la porte des sens. L'image, c'est qu'on est le gardien d'une ville fortifiée. Et puis, il y a tout un tas de visiteurs qui entrent et qui sortent dans cette ville. Et puis, notre job de gardien, c'est juste de garder la porte. Et puis de voir qui entre et qui sort. On n'a pas besoin de suivre en fait chaque visiteur qui vient, qui se présente à la porte. Juste noter c'est quoi le contact. Et puis le laisser aller. Et puis quand on fait ça, ce qu'on peut voir, c'est que au fond, la pensée, c'est un contact parmi d'autres. Du coup, on peut vraiment la remettre à sa place. Il n'y a pas besoin de lui donner toute notre attention. C'est un contact parmi d'autres. Et puis, il faut savoir que la concentration, c'est un entraînement. C'est pas dit que ça marche. Mais l'idée, c'est voilà, de revenir constamment à cette porte des sens. Chaque fois que l'attention s'égare, ben, on la ramène à la porte des sens. Et si l'esprit veut partir, s'occuper du reste de notre vie, régler telle ou telle histoire, ben, on évite de se préoccuper de ces affaires-là. Et on choisit vraiment de donner l'importance à l'espace et au silence. On revient et on reste à la porte des sens. Coulant l'ancrage au corps, il est fondamental. Il y a vraiment beaucoup de force et puis beaucoup de compréhension qui naissent de cet ancrage et puis du silence qu'on peut offrir à tous ces visiteurs. Je vous relis une parole de John Lane. Pour moi, les notions de silence, de solitude et de lenteur recouvrent bien plus que l'absence de bruit, de compagnie, de vitesse. Elles désignent tout ce qui fleurit à leur contact. La prière et l'inspiration, le calme et la joie, le vide et la créativité, le réconfort, la gratitude. Chacun d'eux peut constituer, à un moment ou à un autre, le meilleur des remèdes contre la vanité et l'agitation incessante de notre époque. Le silence, c'est pas seulement l'absence. C'est vraiment un espace d'écoute profonde, d'écoute tangible, de connexion avec la conscience. C'est pas un vide, c'est plutôt une ouverture à la conscience. Et puis un moyen à travers lequel on développe cette conscience. Et le chemin vers la paix ou la joie, l'équanimité, ça passe par un éveil de la conscience, aussi bien individuelle que collective. C'est un éveil qui est nourri par le silence et qui est nourri aussi par nos aspirations profondes, nos aspirations spirituelles. Généralement, quand on manque de conscience, on agit souvent de manière assez égoïste. Il y a aussi un manque de considération pour les autres. On est motivé par des désirs qui sont souvent des désirs à court terme. Et puis on ignore voilà, les conséquences de nos actions à moyen ou long terme. Alors il n'y a pas de mal à faire ça. Mais c'est bien de voir à quoi ça nous mène en fait. Et puis de questionner quelle est notre aspiration profonde. Qu'est-ce que je veux vraiment? En cultivant la conscience, on peut commencer à faire des choix qui sont un peu plus éclairés, des choix qui préservent la vie, hein, sous toutes ses formes, et des choix qui nous orientent vers un mode d'existence un peu plus altruiste ou un peu plus simple, un peu plus respectueux. La véritable conscience, elle nous invite à percevoir cette interconnexion entre toutes les choses. Et elle nous pousse à comprendre que chacune de nos actions, en fait, même les plus petites, a des répercussions sur l'ensemble. Et puis, ben, ça implique du coup un profond respect pour la nature, un profond respect pour l'autre dans sa différence, dans sa beauté et dans sa complexité, un engagement sincère pour la paix, et puis ce désir de vraiment nous réconcilier avec nous-mêmes et aussi avec les autres et notre environnement. C'est Etty Elezoum qui dit « Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y aura de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. » Pour moi, la paix, c'est une responsabilité intérieure qui se cultive et puis qui peut se répandre. J'aime bien l'image de défricher des clairières. C'est comme si chacun de nous était une île ou une terre qui est parfois envahi par des pensées, des croyances, des émotions confuses. Et puis quand Etty Elezoum parle de défricher, elle parle vraiment de ce travail qui est minutieux, ardu, un travail de patience, qui consiste au fond à accueillir toutes ces impuretés qui assombrissent notre cœur pour qu'elles puissent se transformer. Et quand on parle d'impureté, on parle de ressentiment, on parle de colère, on parle de peur. C'est tout ce qui est l'ombre à l'intérieur de nous. C'est toutes les fois où la blessure d'amour, la blessure d'abandon, elle commence à saigner. Et là, on entre en réactivité. Il y a cette histoire de Nasruddin qui a un petit jardin. Enfin non, je crois qu'il jardine pour le roi. Il me semble que c'est ça. Enfin, c'est pas le roi. Comment ça s'appelle? Le sultan. Merci. Et puis en fait, dans ce jardin, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises herbes. C'est compliqué. Et puis, il a essayé différents moyens pour se débarrasser de ces mauvaises herbes, et puis ça marche pas. Du coup, il va demander conseil à droite, à gauche, et puis il a plusieurs avis, il essaye encore d'autres choses, et puis finalement il y a un jardinier qui vient et puis qui observe bien son jardin, qui prend le temps, la réflexion, puis qui finit par venir lui dire que le seul moyen qu'il voit pour lui de se débarrasser de ces mauvaises herbes, c'est d'apprendre à les aimer. Donc c'est cette idée, de pouvoir laisser les difficultés faire leur œuvre de transformation. Et si je suis tout le temps en train de courir après le bonheur, je ne vais pas pouvoir faire consciencieusement ce travail-là, en fait, d'accueil et d'abandon. Donc, le travail intérieur, ça demande beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité sur nous-mêmes. Et ça demande aussi un désir sincère de transformation. Il faut vouloir fort se libérer de la réactivité à la souffrance, mais après, être ouvert à tout ce qui peut se présenter. Et l'invitation principale dans la pratique, c'est de nous lier à la conscience. Remarquer les pensées, remarquer les états émotionnels, les sensations, et puis simplement prendre patience avec ces réactions. Pas essayer de les contrôler ni en faire un problème, simplement les laisser aller. il y a ce travail de pouvoir abandonner les émotions perturbatrices ou abandonner la réactivité, transformer la souffrance. Il y a aussi ce travail d'éviter les problèmes quand ils ne sont pas là. Ça veut dire entraîner la concentration. Mais il y a aussi ce travail d'inviter, de cultiver par la conscience ce qui est nourrissant, ce qui nous fait du bien. C'est toutes ces pratiques des Brahmaviharas. Et puis il y a aussi cet effort de voir quand un facteur d'éveil est présent et puis de chercher à ce que les bénéfices puissent s'amplifier en fait. Vraiment cultiver. Favoriser, renforcer. Et si on est constamment tendu vers cet objectif à atteindre, ben ça ne marche pas de la même façon que si on arrive à se détendre. Et puis à s'ouvrir à la conscience, permettre aux choses d'apparaître et puis de changer. Et elles vont changer d'elles-mêmes, c'est pas parce que je veux qu'elles changent qu'elles vont changer. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer du bien-être et de la confiance. Et cette clairière dont parle Etier le Zoom, où la sérénité peut s'épanouir, c'est pas une tranquillité qui est figée. Ça veut dire que ben, d'abord, c'est quelque chose qu'on remet sur le métier continuellement. Et puis ça veut dire aussi que cette tranquillité, elle peut rayonner vers les autres et vers le monde. À travers les paroles qu'on peut prononcer, à travers les actes qu'on pose, notre mode de vie, on a vraiment la possibilité. Je ne sais pas si influencer c'est le bon mot, mais questionner en fait notre entourage par rapport à un meilleur équilibre à trouver dans la vie. Donc il y a cette vérité de la souffrance, le monde est marqué par toutes sortes de tensions. Et pourtant, chaque acte de paix à l'intérieur de nous, ça contribue quelque part à apaiser cette ébullition collective. Donc ça commence en chacun de nous et ça commence par le développement de la conscience. Et puis je vais terminer avec un texte que j'ai lu quand je suis allée en France faire cette retraite l'été passé avec Sophie Boyer. C'était un texte qui était affiché comme ça à l'entrée du centre, c'est un centre birman je crois, près de Paris. Je trouvais très beau. C'est un Robert Sunward qui a écrit ça. Nos décisions et actions ont créé ce monde. Nous pouvons en inventer un autre différent. Que la transformation commence par moi. Je plonge en moi, dans mon propre corps, dans mes émotions et mon esprit. J'affronte mes démons et mes peurs. Je fais face à ma colère et à ma haine, à mon arrogance et mon avidité, et je lâche prise. Je lâche prise et en échange, je reçois un monde nouveau, un monde de confiance et de joie, un monde de bonheur et de sagesse, un monde de compassion et de bienveillance, un monde d'acceptation et de gratitude qui a le goût de la fraîcheur, ici et maintenant. le Bouddha, quand il résume son enseignement, il dit « Fais le bien, évite de faire le mal et cultive ton esprit. » Et on fait ça en prenant refuge dans notre intention de libération et en étant complètement détaché du résultat que tout ça va avoir. En comprenant dukkha, en acceptant pleinement l'imperfection des choses. Et en faisant quand même le choix de cultiver par la conscience ce qui fait du bien. Une dernière chose qui me vient, c'est qu'au niveau éthique, il y a vraiment des choix à faire. Il y a vraiment à mettre en évidence le lien entre le désir et la souffrance, à conscientiser voilà, les conséquences de nos actions. Mais après, au niveau de l'esprit, il y a vraiment cette... ce non-attachement à cultiver. Donc c'est vraiment comment on pose ses actes qui va être important. Ça demande une grande ouverture au mystère de la vie, un complet abandon au mystère.